en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est un raconteur d'histoire. Il l'a fait au cinéma ou à la télévision en tant que comédien, réalisateur, scénariste. Il l'a fait aussi au théâtre en tant que comédien, dramaturge, metteur en scène au point de collectionner les Molières pour ses pièces Le Porteur d'Histoire, Le Cercle des Illusionnistes ou son plus grand triomphe sans doute Edmond. Et voici que l'on découvre en Alexis Michalik un romancier. Son premier roman est une histoire d'amitié, d'identité et d'origine, une histoire de voyage aussi qui à travers différentes étapes européennes, asiatiques, africaines nous replonge dans l'histoire et la géographie de notre monde, du début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Comme dans ses pièces, il y démontre un efficace sens de la narration, nourri par des personnages attachants et hauts en couleur, une intrigue pleine de souffle, à la fois complexe et limpide, un rythme effréné et sans temps mort, absolument jubilatoire. Donc, Loin, le premier roman d'Alexis Michalik est paru aux éditions Albin Michel, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Alexis Michalik.
Bonjour, je crois qu'il n'y a rien à ajouter, bravo, merci.
On va essayer de rajouter quelque chose parce que il faut quand même faire l'émission.
C'est vrai que je suis avec vous.
Voilà, alors vous savez bien Alexis Michalik qu'une interview, ça se passe avec des questions et des réponses.
C'est vrai, bon alors d'accord.
Voilà, des questions qui sont la vie même, c'est ce qu'on peut lire dans le prologue de ce livre. Et un peu plus loin dans le livre, dans le corps du récit cette fois, vous ajoutez « l'essentiel ce sont les questions ». Tant que l'on pose des questions, il y a un but. Dès qu'on a la réponse, on peut mourir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre oxygène, ce qui vous fait vivre, ce qui vous fait avancer, c'est la curiosité, c'est le besoin de découvrir, d'apprendre?
Absolument. Et je pense que ça devrait être l'oxygène de chacun. En fait, moi, il y a une seule catégorie de personnes qui m'insupportent, c'est les gens qui ne posent jamais de questions.
Vous adorez les journalistes, alors?
J'adore les journalistes. Mais oui, parce que le rapport est tellement simple. Ils posent des questions, ils s'instruisent, ils ont envie d'en savoir plus. Bah, moi, j'ai envie d'en savoir plus. Et d'ailleurs, la plupart de mes récits, que ce soit au théâtre ou là dans ce livre, ce sont souvent des enquêtes. Hein, ce sont souvent des gens qui enquêtent et ce sont souvent des gens qui découvrent, qui, grâce au pouvoir de la curiosité, s'enrichissent dans Le Porteur d'Histoire. Et ben, c'est un homme qui est un peu frustré, qui a une trentaine d'années et qui tout d'un coup va découvrir le pouvoir des livres. Et donc, il y a toujours cette espèce de promotion de l'instruction et de la curiosité. Et dans Loin, bah, ça parle du voyage géographique, évidemment, mais aussi intérieur, mais aussi intellectuel, mais aussi le voyage qu'on peut faire en s'ouvrant à l'étranger.
Donc ça tombe plutôt bien, parce qu'évidemment j'ai plein de questions à vous poser, Alexis Michalik. On va donc faire l'interview à travers les questions que vous posez dans le livre, et aussi quelques-unes des questions que moi je me suis posées en tant que lecteur. Par exemple, il y a cette première question que pose votre narrateur au tout début, hein, on est vraiment dans les deux premières lignes du roman. Elle tient en trois mots, cette question: qui es-tu? C'est la question la plus simple ou la plus compliquée du monde?
Ah bah, c'est la question en tout cas qu'on devrait déjà commencer par se poser. Qui on est, d'où on vient, parce qu'en comprenant qui on est et d'où on vient, et ben on s'ouvre vers l'étranger. Une fois qu'on a résolu cette question, une fois qu'on sait qui on est, ou qu'on sait un petit peu au moins qui on est, on peut commencer à se dire, bon, ça c'est fait, maintenant je vais m'intéresser au reste du monde. Sinon, et ben en fait, on passera toute sa vie à ne se centrer que sur soi-même.
Donc c'est important de solder cette question dès le début pour pouvoir passer à autre chose.
Je pense, en tout cas moi c'est des questions que j'ai eues, que je me suis posées quand j'avais la vingtaine, les prémices de ce roman c'était il y a une dizaine d'années, et que où je me disais bon bah d'où je viens, c'est quoi mes origines, où est-ce que je me tiens, où est-ce que je suis politiquement, qu'est-ce que je pense, comment je peux penser par moi-même. C'est le moment où on se met, enfin je pense, à penser par soi-même, à être un peu affranchi du bagage familial, de la etc. Donc on commence à vivre seul, et donc on doit se dire d'où je viens, qui je suis.
Alors ton sang provient du monde entier, écrit votre narrateur, qui continue de s'adresser au lecteur, parce qu'à plusieurs reprises, hein, vous vous adressez directement à lui, il y a pas de quatrième mur non plus, hein. Dans ce livre, Alexis Michalik, vous inscrivez donc d'emblée à travers cette phrase, hein, ton sang provient du monde entier, vous inscrivez au personnage dans une histoire longue, dans une histoire mondiale, presque universelle. Votre narrateur, il faut dire qu'il est journaliste. Vous voyez qu'on en revient toujours aux journalistes et à ceux qui posent des questions. Et il s'est toujours senti, ce journaliste qui s'appelle Laurent, citoyen du monde. Vous aussi, vous sentez un citoyen du monde?
Oui, en tout cas, je me sens citoyen du monde. C'est un peu naïf comme pensée, mais effectivement, il y a ce côté, pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous citoyens du monde? Le narrateur, lui, c'est un homme qui voyage beaucoup et qui cherche. Et qu'est-ce qu'il cherche? On ne sait pas trop, mais en tout cas, il cherche. Et donc, il a voyagé voyagé, il a visité plein de pays et à chaque fois il se sent soit étranger, soit il se sent chez lui, enfin il se sent jamais vraiment chez lui. Et moi oui, évidemment, j'ai un amour du voyage, j'ai un amour de la découverte d'autres cultures. Je viens moi-même de plusieurs cultures différentes et je pense que les gens qui viennent de plusieurs cultures différentes ont ce goût de l'étranger, ont ce goût de la découverte. Notre sang, si on remonte assez loin, provient d'une vallée du Rift en Afrique et on en vient tous. Et tant qu'on n'a pas compris qu'on est tous des lointains cousins, ce sont les bases du racisme et de l'intolérance.
Mais alors justement, il y a toujours ce débat éternel en France, mais aussi dans d'autres pays européens autour du sang et du sol. Qu'est-ce qui, selon vous, est le plus important? Qu'est-ce qui prend le pas sur l'autre pour définir qui l'on est?
Moi, j'ai tendance à croire que c'est le sol qui compte, mais parce que je suis français et républicain et que le sol a la valeur la plus grande ici, donc à partir du moment où on est sur le territoire français, on est français en fait. Donc moi-même, je me pose pas de questions. Quelqu'un qui est né ici, il est là. Et de manière plus philosophique, je pense que quand on vit à un endroit, on le devient. On devient cet endroit. Cet endroit nous appartient et on appartient à cet endroit. Si je suis né en Tanzanie mais que j'ai vécu toute ma vie aux États-Unis, je vais me sentir américain plus qu'autre chose. Si moi personnellement, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, j'ai vécu à Paris, je me sens parisien. Il y a une autre ville dans laquelle j'ai vécu en cumulé presque un an. C'est Casablanca au Maroc pour des raisons de boulot, de tournage. Et quand je reviens à Casablanca, j'ai l'impression que je suis un petit peu chez moi. Parce que j'y ai vécu un certain nombre d'années et je pense que le sol en fait prévaut sur le reste. L'endroit où on est nous fait ressentir chez nous.
Bon, sauf que tout le monde ne pense pas tout à fait comme vous, en particulier ceux qui ont rencontré Laurent, votre narrateur dans sa vie, parce que Laurent il est journaliste, on l'a dit, mais il est métis aussi. Il a des origines africaines et bretonnes et on lui a fait sentir quand même régulièrement, on peut pas dire que c'est quelqu'un qui a énormément souffert du racisme, mais c'est quelqu'un à qui on a toujours fait sentir qu'il n'était pas tout à fait comme les autres. Il était différent, un peu entre deux mondes.
Oui, mais je pense qu'il en a peut-être souffert, mais qu'il a une philosophie, en tout cas, de se dire c'est comme ça, c'est la vie. Les gens par nature, l'homme par nature, il y a cette phrase où il dit l'homme est lâche par définition et il a conquis le monde par accident. Et donc il a une philosophie désabusée de l'être humain. Il n'attend que le pire de l'être humain. Il se dit de toute façon l'être humain il est menteur, il est raciste, donc il sera comme ça. C'est comme ça, c'est tel est le monde, à l'exception d'une seule personne, son meilleur ami Antoine, qui va être le protagoniste de ce roman et dont on va découvrir l'histoire.
Alors Antoine, justement, ils sont très très proches, Laurent et Antoine, très proches mais très différents, parce que autant Laurent a pas mal bourlingué sur le map-monde, autant Antoine, lui, c'est un casanier. Alors c'est un type bien, c'est un type droit, c'est un type sérieux, c'est un type fidèle, il a une vie extrêmement rangée, on se dit... C'est tout sauf un personnage de roman, Alexis Michel.
Exactement. C'est un personnage où on se dit qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter sur cet homme-là. Et en même temps, dans la vie, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui a vraiment une vraie fidélité. C'est l'incarnation de la droiture. D'ailleurs, il étudie le droit. Il a 26 ans. C'est un jeune homme. Il est avec la même femme depuis toute sa vie qu'il va épouser. Il l'aime.
Jennifer.
Donc, ils ont un espèce d'avenir un peu tracé. Il est devenu propriétaire déjà. Il compte avoir des enfants. Enfin, il a vraiment cette notion de la vie qui s'est créée en opposition au départ de son père, Charles, qui est parti du jour au lendemain il y a 20 ans. Et on ne sait pas où il est allé, personne ne sait, il n'a pas laissé de mots, il est parti comme ça. Et c'est l'été, ils sont en Bretagne, dans la maison familiale, et Antoine monte à Paris pour un entretien d'embauche. Et il va, en ramassant le courrier chez sa mère pour lui ramener, il va trouver cette carte postale qui a été envoyée par la poste et qui a été égarée pendant 17 ans. Et cette carte postale est envoyée par le père et elle porte seulement quelques mots. Je pense à vous, je vous aime.
Nous sommes page 40 de votre roman.
Antoine ouvrit les volets, arrosa les plantes, ramassa le courrier, fit le tri. Depuis qu'il était en âge de voter, et même avant, en y réfléchissant, Antoine s'occupait des factures de sa mère. Il avait ce don pour l'administration, et même s'il n'était pas particulièrement passionné par les relances EDF ou les impôts locaux, il s'en acquittait avec zèle, sans jamais rechigner. Depuis qu'il étudiait le droit, il était même devenu un expert en pinaillage et contorsion de la loi. Il trouvait toujours, après un examen minutieux des textes, le moyen de faire économiser à sa mère quelques euros face à la lourde machine administrative française. C'était devenu un jeu pour lui. Certains de ses amis sniffaient de la coke, payaient des prostituées, perdaient des fortunes au casino, partaient faire du planeur, du saut à l'élastique, du deltaplane, couraient le marathon enceinte de 6 mois, que sais-je. Antoine, lui, lisait jusqu'au bout les petits caractères du formulaire E6. D'aucuns pourraient se demander à présent quelle qualité amicale je trouvais en lui. Et pourquoi l'être que je suis si perverti au plaisir du péché, la plupart des exemples ci-dessus sont les miens, s'attachait tant à un retraité de 26 ans. Je répondrai d'abord que dans la vie, l'essentiel n'est ni le mouvement, ni l'immobilité. L'essentiel est l'équilibre. Deux diables ensemble font un trop grand tapage. Deux anges s'ennuient, mais un ange et un diable ont une source inépuisable de dialogue. Je tâchais régulièrement de pervertir Antoine, en combattant ma pire ennemie, sa fiancée. Et Antoine tâchait régulièrement de me faire revenir dans le droit chemin. De plus, les petites taquineries que je me permets, lecteur, de te faire remarquer n'ont pour but que d'excuser Antoine, qu'un lecteur ignorant pourrait taxer d'intrusif, lorsqu'il le découvrirait comme je vais le décrire, en train d'ouvrir le courrier de sa mère. Antoine mit de côté quelques factures, n'ouvrit pas les lettres qui semblaient personnelles et ventra rapidement quelques publicités qui finirent dans la poubelle jaune, celle qui recycle. Parcourut les brochures Conforama, But, La Paire, sans autre raison que l'attrait des couleurs et s'arrêta sur une lettre en apparence administrative. Ni EDF, ni les impôts, ni SFR, La Poste. Rien d'étrange si ce n'était la destinataire, Patricia Lefebvre. Lefebvre ? Depuis combien de temps sa mère ne portait plus ce nom ? Il hésita un moment, jugea l'erreur humaine, déchira l'enveloppe. Il en découvrit le contenu avec circonspection, sans comprendre d'abord. Puis il cessa de respirer, 10 bonnes secondes au moins. Il déglutit. La lettre de La Poste était un courrier standard.
« Chère madame, nous avons retrouvé au centre de tri postal de la Garenne-Colombes une carte postale qui semble vous être adressée. Il arrive que certaines lettres se perdent, c'est le cas de celle-ci. En vous priant de nous excuser pour le retard... » Le service clientèle de La Poste.
Le tampon de la carte postale indiquait la date d'expédition, le 23 mars 1991, 17 ans auparavant. La carte représentait un petit musée, un joli manoir du début du siècle dernier. Le nom du centre d'expédition sembla d'abord allemand à Antoine, ou suisse allemand peut-être, en tout cas germanique. Au verso, quelques mots seulement étaient écrits.
« Je pense à vous, je vous aime, Charles. »
Et Charles, Alexis Michalik, c'est donc le père d'Antoine qui, je le répète, a quitté la maison familiale 17 ans plus tôt et qui n'a jamais donné de nouvelles depuis, mis à part donc cette lettre qui arrive à ce moment-là de l'histoire. Il est parti, il a laissé là, comme ça, sa femme, vraiment du jour au lendemain, le petit Antoine aussi, mais aussi le bébé qui était dans le ventre de Patricia à ce moment-là, puisqu'elle était enceinte. Ce bébé est né quelques temps après, il n'a donc jamais connu son père, et ce bébé est une fille qui s'appelle Anna. Alors, quand se déroule l'histoire, Anna a grandi un peu.
Elle a 19 ans.
Une jeune fille, elle a 19 ans. Et alors, pour moi, je vous assure, pour moi, oui. Anna, c'est le plus beau personnage du livre.
Bien sûr, et vous n'êtes pas le seul. Oui, bien sûr, parce qu'Anna, c'est le poil à gratter. Anna, c'est l'opposé complémentaire d'Antoine. Elle s'est construite complètement en rébellion par rapport au monde. Et elle est à un âge où elle est complètement chaotique. Elle se cherche absolument. Elle ne sait pas du tout. Elle prend des drogues. Elle couche un peu avec tout ce qui bouge. Elle couche avec des filles, des garçons. Enfin, et elle est en constante négation de tout ce que va dire Antoine, et pourtant elle est extrêmement attachante parce qu'elle est brillante, parce qu'elle est drôle, et elle va se joindre à Antoine et à Laurent pour cette aventure, pour ce voyage à la recherche de ce père disparu dont elle personnellement se fiche un peu.
Voilà, c'est un personnage qui va prendre de l'épaisseur, qui va grandir, dont on va découvrir les contours réels en cours de lecture. Elle était insupportable et pourtant on ne pouvait que l'aimer, écrit votre narrateur. On a un peu l'impression, Alexis Michalik, quand on découvre vos différents personnages, et il y en a énormément. Je ne sais pas combien il y en a, mais enfin, il y en a des dizaines et des dizaines hein, à travers ce roman. On a un peu l'impression que, comme dans les feuilletons télé, comme dans les BD, comme dans les films, comme dans les pièces de théâtre aussi, les personnages secondaires, voire tertiaires, sont aussi importants que les héros.
Bien sûr, c'est parce que c'est une œuvre d'ensemble. Je suis incapable de raconter des histoires avec un seul héros. Donc je raconte toujours des histoires de troupes. Et à chaque fois que j'amène un nouveau personnage, il faut qu'il ait un intérêt à exister. Sinon, il sert à rien et ça ne sert à rien de l'amener, quoi.
Parfois, ça dure juste une page et demie, hein, guère plus. Hein, et pourtant, chaque personnage a une existence réelle. Il a des aspérités.
Voilà, à chaque fois, j'explique un peu d'où il vient, pourquoi il est là, etc. Et ça nous permet de s'y attacher en peu de temps et donc d'être triste au moment où on le quitte, même si c'est quelques pages plus tard. Mais à chaque fois, s'articule la majorité de l'histoire. On revient toujours à notre trio, Anna, Antoine, Laurent. Et ils sont très différents, ces trois-là. Mais justement, c'est cette différence qui leur permet d'avoir du dialogue. Comme on le disait dans l'extrait de tout à l'heure, un ange et un diable ont une source inépuisable de dialogue. Et donc, moi, je suis un homme de théâtre, évidemment. Je prenais énormément de plaisir plaisir à les faire dialoguer. Et même parfois, au bout de deux pages de dialogue, je me disais, bon, allez, ça suffit, il faut que tu fasses une description, là, parce que c'est pas possible, on n'est pas au théâtre, quoi. Alors que dans
Mais le
dialogue,
c'est pas toujours la solution de la facilité, pour un
Non, mais pour
hein,
moi.
Au contraire, un dialogue peut, au contraire, oui. nourrir non seulement l'intrigue, mais nourrir aussi la construction psychologique des personnages.
Bien sûr, complètement. Mais disons que pour moi, homme de théâtre, enfin, auteur de théâtre, c'est plus naturel d'écrire un dialogue qu'une longue description. Donc, je bataillais à essayer, je me forçais à limiter mes phases de dialogue, on va dire.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Alexis Michalik qui publie chez Albin Michel, non pas du théâtre, mais son premier roman intitulé Loin. D'ailleurs, pourquoi un roman? Vous aviez envie de taquiner la plume d'une façon différente?
Alors, bon, déjà, moi j'écris depuis l'adolescence et j'avais déjà écrit des romans qui seront jamais publiés et qui n'ont jamais été publiés. Mais,
on sait jamais,
mais si, je m'en doute un peu. Mais par contre, ce que je veux, à l'époque, j'avais envie d'en faire une série. Il y a 10 ans, je me disais, ce serait génial d'avoir une série avec 3 jeunes gens qui parcourent l'Europe et le monde. Et à chaque épisode, ils arriveraient dans un nouveau pays, dans une nouvelle culture, et on devrait avoir des acteurs locaux et une langue nouvelle, etc. Et comment ce serait un récit de voyage, mais vraiment avec un vrai récit. Et puis, je me suis assez vite rendu compte que j'avais pas vraiment les épaules à cet âge-là pour faire ça, et que ça allait coûter quand même assez cher de faire cette série. Donc, je me suis retrouvé avec cette histoire assez longue, ambitieuse. Et que faire de cette histoire? Le moyen le plus économique de la raconter, ça restait le roman. Alors, j'ai pris mon petit bâton de pèlerin, ma petite plume, mon petit ordinateur, et puis j'ai commencé à écrire, mais ça m'a pris quelques années.
Alors ce livre, Alexis Michalik, c'est effectivement une invitation au voyage, hein, pour parler comme Baudelaire, que vous citez à plusieurs reprises, d'ailleurs en épigraphe même du livre, vous citez non pas l'invitation au voyage, mais le voyage, votre poème de Baudelaire. Il y a aussi d'ailleurs à plusieurs reprises dans le livre de référence à ce texte, hein, « Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre », etc. etc. Mmh. Et puis le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est vaste votre appétit, parce que vous parlez de l'appétit à travers justement cette phrase de Baudelaire: pour l'enfant amoureux de cartes et d'estampes, l'univers est égal à son vaste appétit. Vous êtes d'accord avec Laurent quand il parle de l'appétit du voyage, mais aussi quand il dit que le voyage est une fuite en avant?
Oui, enfin là, il parle du voyage historique, on va dire. Il explique que, grosso modo, l'homme est parti du rift africain, et que s'il s'est retrouvé en Bretagne avec le climat qu'on connaît, c'est forcément qu'il devait fuir quelque chose. Il dit un mammouth, une femme trop pressante, quelque chose en tout cas, et que l'homme donc lâche par définition, a conquis le monde par accident. Et cette phrase, voilà, c'est pareil, c'est ça naît de sa philosophie de l'être humain, dans la vie de tous les jours. Pourquoi en voyage? Pourquoi est-ce qu'on part, en fait, surtout? Le voyage, on part, on revient aujourd'hui, évidemment, mais il y a quelque chose, il y a forcément quelque chose qu'on laisse derrière nous, qu'on a envie de laisser derrière nous, on a envie d'espérer des cieux plus cléments ailleurs. Bon, en réalité, en général, c'est pas en partant qu'on résout les problèmes.
Oui, mais il va loin quand même, hein, votre personnage, puisqu'il dit, par exemple, que les photos de voyage sont un moyen d'oublier que la mort est inéluctable.
Bien sûr.
Il est un peu torturé, votre Laurent, quand même.
C'est normal, c'est parce que pourquoi est-ce qu'on prend des photos de lieux qui existent et qui existent en photo, prises par des photos bien meilleures que les nôtres ne le seront jamais? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de montrer qu'on est à cet endroit, de montrer notre visage sur cette photo? Ça n'a aucun intérêt en soi. Le lieu sera toujours là et nous on sera toujours là. Donc c'est pour un témoignage, c'est pour dire j'y étais, j'ai fait quelque chose de ma vie, j'ai existé, j'ai voyagé. Donc pour tromper la mort, parce que tant qu'on peut vivre, on doit montrer qu'on est en train de faire quelque chose.
Alors qu'est-ce que vous avez fait d'ailleurs en entrant dans ce studio?
J'ai pris une photo, évidemment.
Voilà, une photo, un selfie,
posté,
hein,
bien sûr.
Et vous l'avez posté.
Mais parce que je suis humain.
Tout simplement. Alors Laurent, en tout cas, établit dans le livre une typologie du voyageur. Alors c'est vraiment un moment à la fois très important du livre, presque anecdotique par rapport à la narration, mais en même temps qui en dit beaucoup sur les impressions de voyage qui ressortent du livre, et peut-être sur votre regard sur le voyage. Nous sommes page 240 de votre roman.
De catégories, on peut en discerner 3, les indigènes, les aventuriers et les touristes. Les indigènes ou locaux sont ceux qui vivent à l'endroit visité ou qui semblent y vivre. En général, ils passent un temps conséquent dans une seule ville, leur base, soit pour le travail, soit pour le plaisir. Ils ont le temps, ils s'installent, ils adoptent les coutumes, apprennent la langue, se fondent dans la masse. On ne saurait dire depuis combien de temps ils sont là, ou combien de fois ils sont venus. Ils connaissent, parfois mieux que les natifs, chaque ruelle de la vieille ville, les meilleurs restaurants, les meilleurs commerces, les recoins les plus secrets. Les touristes, en revanche, ne se mouillent pas. Ils restent attachés à leur guide, à leur hôtel. Ils n'ont pas le temps. Ils doivent faire un pays en quelques jours seulement. Église, restaurant, château, pyramide, musée, montagne, plage ou piscine de l'hôtel et cours de tennis, tous les jours, pendant que les enfants jouent avec les autres enfants du club. Ils ont des chaussures de marche, des lunettes de soleil et une casquette, un sac à dos, un guide, un sac banane. Leur plus grande crainte, se perdre. Ce qui, paradoxalement, est le but ultime de l'aventurier. Toujours en quête du frisson, insatisfait dès qu'il passe plus de 3 jours au même endroit. Allergique au confort, l'aventurier préfère le stop, la marche, la moto, le bateau. Il n'aime rien tant que tomber en panne, prendre la mousson ou tomber dans une embuscade. Il ne se sent jamais aussi vivant que lorsqu'il est en danger. Bien sûr, je caricature et tu devines, lecteur, que mon cœur penche vers la première catégorie, même si je me permets ces petits jugements taquins. C'est qu'il m'est arrivé au cours de mes voyages d'être successivement indigène, touriste et aventurier. Ces petits reproches, je me les faisais à moi-même. Lorsque je revenais épuisé d'un pays, ayant photographié plus que regardé, enregistré plus qu'écouté, ou lorsque je me faisais peur et me traitais de tous les noms en me jurant de ne plus jamais prendre un sentier inconnu. Ainsi, en regardant son ami avec son sac banane de touriste, Laurent n'eut qu'un sourire amusé et répondit « Pour rien, pour rien », lorsqu'Antoine lui demanda pourquoi il souriait.
Alors, l'indigène, le touriste, l'aventurier, à quelle catégorie de voyageurs appartenez-vous, Alexis Micheli?
Tour à tour, un peu aux trois. Je suis pas souvent aventurier, hein, je vous cache pas, mais j'ai des amis qui le sont et j'avoue que je suis assez fasciné par ces gens qui sont capables de larguer les amarres et de partir au bout du monde et de dire, allez, je vais partir en moto, je sais pas où je vais dormir ce soir, mais je vais trouver quelqu'un qui va m'accueillir. Moi, ça me fascine, je suis bien trop organisé pour ça, mais j'ai été local et touriste quand j'ai pas trop le temps et que je reste un peu plus dans ma chambre d'hôtel, et local quand j'ai un peu le temps de m'installer et que là je peux commencer à apprendre la langue, à aller chercher un peu. Moi je déteste faire les choses que ne font pas les locaux. Je déteste faire des activités de touriste. J'ai vraiment été éduqué comme ça, mes parents encore plus, mon père déteste être un touriste. Donc mais c'est vrai, hein, ils sont comme ça, ils se sont rencontrés en Grèce, ils parlent grec, etc. Enfin il y a un vrai amour de la vie locale, quoi. Donc je penche plus vers cette catégorie. Et vous-même, vous êtes quoi alors?
Alternativement, un peu détroit, aventurier, pas trop. Hein, mais ouais, enfin, voilà. Mais enfin, peut-être que ça viendra un jour.
Mais on les admire, les aventuriers. On dit c'est admirable de ne pas avoir de peur, en fait. Mais en réalité, on risque surtout de choper un truc et de.
Oui,
et
mais c'est vrai que vous expliquez à un certain moment que chaque homme nourrit en lui l'espoir d'être un héros. même Antoine.
Oui, c'est vrai. Chacun nourrit cet espoir. Mais au fond, ils ont une discussion un peu plus tard où Laurent dit, mais en fait, personne n'aime les héros. En fait, on espère être un héros, on rêve d'être un héros, mais si on devient un héros, on se rend bien compte que les gens détestent les héros parce qu'ils nous ramènent à notre propre médiocrité.
Voyager, Alexis Michalik, c'est forcément pour vous se déplacer physiquement, ou on peut voyager tranquillement dans son fauteuil, en se plongeant dans un livre, ou en se carrant dans son fauteuil rouge de théâtre ou de cinéma?
Disons qu'à défaut de voyager physiquement, on peut voyager autrement. Le voyage peut être intérieur, peut être généalogique, peut être littéraire, intellectuel. On peut voyager en ouvrant un livre, en regardant une série, en parlant avec quelqu'un qui nous raconte quelque chose. Les zones du cerveau qui sont utilisées par le fantasme sont les mêmes que celles qui sont utilisées par l'expérience réelle. Donc, on peut complètement voyager de façon métaphorique. Moi, quand j'essaie de faire un spectacle, j'essaye de faire voyager les spectateurs, j'essaye de les emmener ailleurs. Et au théâtre, ça marche presque mieux qu'au cinéma, parce qu'au théâtre, le spectateur est obligé de mobiliser son imagination. Alors qu'au cinéma, c'est le cinéma du réel. Mais au théâtre, quand on lui dit, là, les acteurs sont en train de s'envoler dans un avion, et qu'on voit pas l'avion, mais qu'on entend le bruit, le spectateur est obligé de s'imaginer ce décor. Et donc, il le vit de manière presque plus intense que s'il le voyait sur un écran.
Mais le voyage par imagination, par procuration, à travers un auteur, à travers des comédiens, à travers des images, il peut être aussi enrichissant que le vrai voyage physique?
Il peut être enrichissant, en tout cas, c'est toujours enrichissant. Mais le vrai voyage physique, c'est autre chose. C'est, comme vous le dites, c'est physique, c'est notre corps qui se déplace. Donc le voyage intellectuel peut faire beaucoup de choses à notre esprit, mais si on veut que notre corps vive des sentiments et des odeurs, il faut le déplacer, quoi. Il faut partir, il faut bouger, il faut aller vers l'inconnu.
Il faut se perdre aussi.
Il faut se perdre, parce que se perdre, c'est déjà un peu se chercher.
Je connais un gars bien dans sa tête, avec son sac banane, bien à son aise dans ses baskets. Avec son sac banane, il marche le sourire aux lèvres, avec son sac banane, même quand il est à mobilette. Avec son sac banane, il préfère le pratique à l'esthétique, il vit d'ailleurs.
J'ai mis un pratique. Partout,
c'est un héros.
son sac banane, il est toujours bien dans sa peau. Avec son sac banane. Jour de fête, on peut dire qu'il a des chiottes. Avec son sac banane, il en a même perdu ses potes. Avec son sac banane. Avec son sac banane, on l'appelle le fou du village. Avec son sac banane, il chante à tue-tête dans la rue. Avec son Walkman quand il va faire son PMU. Avec son sac banane, que contient-il, on se demande. Ce sac banane, on raconte dans une vieille légende.
Il y a une banane.
Il est un héros dans sa tête. Avec son sac banane, il y a une ceinture pleine de gadgets. Avec son sac banane. Sac banane, il n'écoute pas les médisances. Avec son sac banane, il ne se pose pas de questions. Avec son sac banane, c'est peut-être lui qui a raison. Avec son sac banane.
Alors la chanson, je vous le cache pas, s'appelle Avec son sac banane, c'est signé Tricot Combo. Et eh oui, dans VMDN sur RFI avec Alexis Michalik. Vous voyagez avec un sac banane vous aussi?
Alors
comme,
non,
comme
mais
Antoine,
j'ai évidemment un ami qui a toujours son sac banane, donc petite dédicace à Régis Vallée, un de mes acteurs et mon meilleur ami qui a toujours et son sac banane et ses Birkenstock.
Ah oui, d'accord. Bon, il y a pas de Birkenstock dans le roman, sauf erreur de ma part. Par contre, il y a un sac banane et il y a une scène du livre qui est une sorte de plaidoyer en faveur du sac banane qui revient un peu à la mode en ce moment d'ailleurs. Mais
bien
on a toujours tendance à le porter sous l'aisselle.
Parce que le ringard revient un peu à la mode. Mais oui, parce que bon, y a une scène où en gros ils se font piquer leur bagnole et donc leurs papiers et le seul à qui il reste quelque chose, c'est Antoine qui a son sac banane.
Voilà. Alors le sac banane, c'est un moyen donc de raconter l'une des péripéties de votre roman, Alexis Michalik, et elles sont extrêmement nombreuses. Il y en a un petit peu, c'est un petit peu comme dans vos mises en scène, hein. On a un peu l'impression que vous travaillez énormément les enchaînements entre les scènes, entre les chapitres, la question du rythme, aussi bien au théâtre qu'en littérature, c'est une question qui vous obsède.
Oui, elle est primordiale pour moi, mais tout simplement parce que quand je me relis ou quand je vois un de mes spectacles, si je sens que je m'ennuie, c'est que ça ne va pas. Donc j'essaie de faire en sorte de ne pas m'ennuyer et donc j'essaie de tout simplement. Mais c'est drôle qu'on me parle de rythme dans le roman, parce qu'en lecture, c'est le lecteur qui fait son propre rythme. Au cinéma, on lui impose, au théâtre, on lui impose.
Certes, mais l'écrivain et le narrateur, ils participent pleinement. Par exemple, vous utilisez une technique qui est une technique de feuilleton, hein, c'est le cliffhanger,
c'est-à-dire qu'à la fin
de chaque chapitre, il y a un petit mot qui relance complètement l'action, qui relance le suspense, qui relance l'intérêt du lecteur. On n'a qu'une envie de tourner la page.
Ouais, moi j'adore la BD et c'est aussi dans la BD franco-belge, il y a ce classique où à chaque fin de page, il faut un cliffhanger, il faut un qui permet de tourner la page et d'aller voir ensuite ce qui se passe. J'ai essayé de mettre ça dans mon effectivement à chaque fin de chapitre.
Voilà. Et en plus, vous allez même plus loin dans la perversité de l'auteur, si j'ose dire, Alexis Michalik, parce que parfois il y a des ellipses, c'est-à-dire qu'il y a ce cliffhanger là, et puis ensuite vous changez complètement de lieu, vous changez complètement d'époque, et donc il faut attendre des pages et des pages avant d'avoir la réponse à sa question.
C'est ça. Donc je pense que l'idéal pour ce livre, c'est de le lire vite. Il faut le lire.
Mais on n'arrive pas à s'en détacher. De toute façon, il faut le lire en une fois ou en deux étapes.
Deux, trois jours, quoi. Voilà. Et en même temps, le compliment qui me fait le plus plaisir de mes lecteurs qui m'ont donné des retours, c'est qu'ils me disent que les 50 dernières pages, ils ralentissent. Parce qu'ils ont pas envie de quitter les personnages et donc ils se disent bon ça y est, je vais bientôt les quitter, j'ai pas envie de les quitter tout de suite, et ça c'est génial.
Alors c'est vrai qu'on va pas tout révéler, on va pas raconter l'histoire en détail, on va pas raconter l'histoire de la famille d'Antoine. La surprise fait évidemment partie du plaisir de lecture. Il y a des pistes, il y a des fausses pistes, il y a des changements d'identité, il y a des retournements de situation. Vous faites un peu tout pour embrouiller le lecteur mais sans le perdre totalement. Où est-ce que vous avez situé le curseur justement, parce que le risque c'était de le noyer et de faire en sorte qu'il ne s'y retrouve plus du tout.
Non, bah moi, en fait, je suis mon premier lecteur, donc c'est un peu tout le temps pareil. J'essaye de faire des œuvres au théâtre ou là au roman ou au cinéma qui me plairaient. Et moi, j'ai besoin d'être stimulé quand je lis quelque chose. Si j'ai compris tout de suite la fin, ça m'ennuie. Alors que si régulièrement il y a une relance, si the plot thickens, on dit en anglais, l'intrigue devient de plus en plus épaisse. Donc il faut que régulièrement je rajoute des couches d'intrigue pour que le lecteur soit obligé de se concentrer et de suivre et en même temps d'être happé par ça. Se dire, bon, je croyais être sur une intrigue très linéaire et en fait, il y en a une deuxième qui s'ouvre et une troisième. Et en fait, toutes ces intrigues, je le sais, vont finir par n'en former qu'une. Mais à quel moment et est-ce que je peux arriver à deviner par quel biais?
Mais vous le savez, justement, Alexis Michel. Oui. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'avant même de vous lancer dans l'écriture, vous faites un plan, extrêmement précis, peut-être des schémas, arbres, un arbre généalogique, par exemple.
Voilà, il y a un arbre généalogique, il y en a un à la toute fin du roman, mais il ne faut pas le lire sinon on est un peu spoilé, mais oui, je fais un grand schéma, bon là en l'occurrence vraiment un grand schéma chronologique, un plan que j'essaye de suivre tant bien que mal, après je dérive un peu de temps en temps.
Parce que parfois vos personnages vous surprennent
parce que je me dis, bon là, je m'étais imaginé un truc vraiment dingue, mais bon, ça a du mal à passer, donc je vais réduire un petit peu la folie de ce cliffhanger, justement. Bon là c'est un peu gros, c'est des grosses ficelles, donc il y a une règle d'or dans le scénario qui dit quand il y a une coïncidence qui met vos héros dans la mouise, c'est super. Quand il y a une coïncidence qui les en sort, c'est de la triche.
Ah oui.
Donc
facile.
Voilà, il faut à chaque fois trouver le juste milieu entre comment je peux amener cette coïncidence qui est intéressante mais qui est pas Deus ex machina, qui résout trop facilement le problème dans lequel ils sont. Donc voilà, une constante bataille, et puis à la fin, on est tellement heureux d'arriver à la fin de ces 645 pages dans l'écriture, j'entends.
Oui, dans l'écriture, parce que dans la lecture, effectivement, on pourrait peut-être s'attendre en deuxième tome. Enfin, on en parlera peut-être tout à l'heure. On va voir ça. Donc, mais vraiment, pour revenir au making of, si j'ose dire, du livre. Donc, un plan extrêmement précis. Vous savez très précisément où vous voulez aller, même si de temps en temps vous vous êtes fait surprendre. Des fiches personnages.
Oui, bien sûr. Aussi. Après, j'apprends à les connaître. Évidemment, plus on avance dans l'histoire et plus ils nous sont comme des amis. Antoine, Anna et Laurent, au bout d'un moment, j'aurais pu les faire dialoguer encore des chapitres et des chapitres, parce que c'est naturel, parce qu'ils ont chacun leur caractère et je sais quel type d'humour va avoir Anna et quel type de réflexion va avoir Laurent, donc on les apprivoise, ils deviennent une partie de nous, quoi, surtout que ça m'a pris 3 ans à écrire, donc, et je l'écrivais uniquement quand j'étais à l'étranger, ce roman. Je l'ai pas du tout écrit chez moi, je l'ai forcément écrit. Déjà chez moi j'ai du mal à écrire, je préfère être loin pour écrire parce que du coup j'ai pas de distraction comme j'ai d'autres métiers, metteur en scène, etc. Au moins quand je suis isolé, j'ai la tête libre pour écrire. Donc je l'ai beaucoup écrit à Casablanca, je l'ai écrit à Montréal, je l'ai écrit en Corse, je l'ai écrit en Grèce, je l'ai écrit un peu partout où je voyageais pendant 3 ans.
Est-ce que vous l'avez écrit à Gramat Noisydel?
Alors je l'ai pas écrit aux endroits qui sont cités dans le livre, mais j'en ai visité quelques-uns, sans vous dévoiler lesquels. À la fin du voyage, c'est un endroit où je suis allé moi personnellement, donc je savais qu'ils arriveraient là à la fin.
D'accord. Alors Gramat Noisydel, je l'ai dit 2 fois.
Hein. Gramat Noisydel, bravo pour cette prononciation.
C'est en Basse-Autriche. Voilà, ouais. C'est le premier endroit.
Première étape.
Voilà, la première étape du voyage. Et alors, je suis allé un peu sur Internet, comme tout le monde. Je suis allé voir un peu à quoi ça ressemble.
C'est pas très fun.
C'est pas très romanesque.
Non, c'est pas très fun.
A priori, c'est pas forcément là qu'en tant que romancier, j'aurais situé une intrigue aussi.
Justement, moi, ce que je voulais, c'était que, en fait, au départ de l'histoire, évidemment, on ne soupçonne pas qu'ils vont aller si loin. Et donc, il faut trouver la gradation. Il faut que ça arrive progressivement. Il faut pas que tout d'un coup, au bout du 2e chapitre, ils soient plongés au cœur du Zimbabwe. Sinon, forcément, qu'est-ce qui reste d'exotique? Il faut que ça arrive progressivement. Et puis, on va découvrir aussi, sans trop dévoiler, que le personnage principal, Antoine, a une peur totale de l'avion, et donc que cette peur l'a empêché toute sa vie de voyager et va le contraindre à voyager d'une autre manière au cours de ce livre. Et donc ils ne peuvent pas juste prendre un avion et faire 10 heures et se retrouver au bout de la planète. Il faut qu'ils voyagent pays par pays, route par route, et c'est ce qui rend évidemment le périple le plus intéressant.
Alors on va pas tout dévoiler encore une fois, on va quand même donner quelques petites balises. Il y a quand même une grande partie du récit qui se déroule entre Turquie, Arménie, Géorgie, dans le Caucase. C'est une région région que vous connaissez? C'est une région qui vous intéresse particulièrement?
Je le connaissais pas, mais disons que moi, c'est toujours au service de l'histoire. Et là, en l'occurrence, comme à un moment, on va commencer à plonger un peu dans une certaine histoire de l'Europe au XXe siècle, je voulais trouver quelque chose à raconter de cette histoire-là qu'on ne connaît pas encore. Enfin, qu'on ne connaît pas, en tout cas, scolairement. Nous, on a tous étudié la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, l'Italie, mais on connaît moins ces régions-là. On connaît moins les conflits entre la Turquie, l'Arménie, la Géorgie, toute la partie bloc de l'Est, la Russie. C'est quelque chose que nous, ici, on connaît moins. Donc j'avais envie de m'intéresser à quelque chose, à des minorités, à des cultures qu'on ne connaît pas et pourtant qui sont tout aussi importantes et qui, pour eux, ont vécu une histoire épique et qui ont leur propre avis sur la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale et sur tous ces conflits et toute cette histoire de l'Europe.
Oui, c'est vrai qu'il y a des histoires dans l'histoire. Il y a beaucoup de dégagements, justement, historiques en particulier et culturels aussi, hein, sur la situation politique de tel ou tel endroit traversé. Il y a des références historiques précises avec des personnalités qui ont marqué l'histoire des différents endroits. De quoi est-ce que vous êtes nourri pour retracer ce destin familial hors norme qu'est celui d'Antoine et d'Anna?
Encore une fois, ça part d'une structure, ça part d'un plan. Je savais où ils allaient arriver, je savais par où ils allaient passer. Et ensuite, tout simplement, au fil de l'écriture, à chaque chapitre, je reprenais mon ordinateur et je repartais en recherche. Bon, alors là, j'arrive dans tel pays, j'arrive à telle époque. Il faut que j'apprenne comment c'était, donc Wikipédia, etc., les bouquins d'histoire. Et puis aussi, les réseaux sociaux, les blogs d'expatriés, les témoignages sur tel endroit, tel pays, la cuisine de ce pays, la musique qu'ils écoutent, les odeurs, la vue, les monuments à visiter, et tout ça, au bout d'un moment, j'arrivais à peu près à m'y retrouver et je commençais à raconter mon histoire en m'imaginant ce décor-là. Et à chaque nouvel endroit, nouveau pays, nouvelle culture, il fallait que je refasse ce travail. Donc c'était passionnant parce que j'avais l'impression de voyager avec eux.
Et donc c'est votre imaginaire qui conduit à l'exploration de la réalité.
Exactement.
Et l'exploration de la réalité
qui nourrit
l'imaginaire.
Exactement, ouais, c'est un échange constant, mais un peu comme quand je vais monter un spectacle et que je vais d'abord écrire et ensuite quand je vais arriver au plateau et que je vais mettre en scène, ça va aussi influer l'écriture. Je vais pouvoir aussi réécrire au plateau parce que c'est un aller-retour constant entre l'un et l'autre. Donc ça ne fait qu'enrichir l'objet final.
Est-ce qu'un romancier, c'est un metteur en scène?
Pas vraiment, non. Il met en scène des personnages imaginaires, donc il a pas le même rapport à l'humain. Moi, la seule chose que j'ai éprouvée d'un peu ennuyeuse dans l'écriture de ce roman, c'est juste l'aspect solitaire. Où moi, j'aime travailler avec des gens, j'aime travailler en équipe. Et dans le roman, on travaille en équipe à partir du moment où on a fini le roman et que là, on travaille avec la maison d'édition, l'attaché de presse, l'éditeur, etc. Mais avant ça, on est seul avec son ordinateur. On peut faire lire un peu, mais déjà les gens vont lire beaucoup plus difficilement un roman sur ordinateur qu'une pièce. Ça prend plus de temps, surtout quand il y a 650 pages. Donc du coup, effectivement, c'est un travail assez solitaire. Mais le plaisir qu'on éprouve quand on a fini, il est extraordinaire.
Alors vous jouez avec le lecteur, Alexis Michalik, mais le lecteur peut aussi jouer avec vous parce qu'il peut chercher à débusquer les clins d'œil qui peuvent se produire dans vos pages, les références. Alors il y en a qui sont explicites. Hein. Par exemple, vous citez Feydeau au détour d'un paragraphe, vous citez Tchekhov aussi, qui sont des hommes de théâtre comme vous. D'ailleurs, Feydeau ou Tchekhov, lequel des deux vous sentez le plus proche?
Déjà, j'interprète Feydeau dans le film Edmond, mais non, j'aime les deux. Tchekhov est peut-être moins drôle, mais il a un humour de désespoir, tous les deux à vrai dire, sauf qu'il y en a un qui en fait vraiment de l'humour, mais tous les deux c'est des situations de désespoir.
Donc il y a une référence assez claire aux trois sœurs, mais on se dit aussi au fil des pages, alors je sais pas, peut-être que vous allez me démentir, hein, je sais pas, qu'il y a un peu de Brecht.
Oui, bien sûr, évidemment.
Voilà, Arturo Oui, hein, par exemple, voilà, peut-être du Visconti.
Ouais, on peut dire
avec les Danais, revu récemment au théâtre par Ivo Vanov.
Ouais, la tragédie, effectivement.
La comédie française.
Brecht, c'est sûr. Brecht, j'oserais dire que oui, que c'est un modèle, mais bon, c'est pour moi, c'est tellement au-delà de ce que je peux faire mais effectivement, il y a, en tout cas, c'est le dernier qui a réussi à faire du spectacle populaire et en même temps philosophique et en même temps très intelligent, historique, c'est Brecht, quoi.
Donc, c'est dans ses pas que vous essayez aussi de mettre les vôtres.
Bien sûr.
Et puis, du Dumas.
Évidemment.
Aussi, forcément. Voilà.
Évidemment.
Est-ce qu'on peut dire que c'est la figure tutélaire de ce voyage, du roman?
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, j'y fais référence de fond clairement. Mais oui, c'est Monte Cristo qui guide mes pas parce que pour moi, c'est le roman d'aventure par excellence et que Dumas, c'est le raconteur d'histoire par excellence. C'est celui qui, c'est le page turner, c'est le showrunner, c'est celui qui fait qu'à la fin de chaque chapitre, on veut continuer à lire alors qu'il écrit des pavés, bien sûr. Et il a il a bercé le porteur d'histoire et le revoilà dans Loin.
Voilà. Bon, pour l'instant, j'ai pas tout faux, visiblement. Je me débrouille plutôt bien. Là, je prends peut-être un petit risque quand même.
Alors, vous allez dire quoi?
Quand vos héros embarquent sur un bateau.
Ouais.
Ce bateau, il s'appelle le Pharaon. Mmh. Là, on pense à un autre grand voyageur. On pense à un journaliste. D'ailleurs, comme Laurent, on pense à Tintin.
Ah, c'est vrai, il y a un côté Tintin, absolument. D'ailleurs, le capitaine est un côté capitaine ad hoc.
Ouais.
Oui, oui, il y a Tintin, le pharaon. Bon, le clin d'œil, c'est aussi à Monte Cristo parce que c'est le bateau d'Edmond Dantès dans Monte Cristo. Mais oui, oui, il y a un côté Tintin BD complètement assumé, mais qui existe aussi dans mes pièces, hein, parce que j'adore la BD, j'ai toujours aimé la BD, j'avais les Tintins et ce côté un peu aventurier de bande dessinée, je l'ai dans tous mes récits, quoi.
Bon, et puis il y a une autre scène, alors c'est la scène de la fuite en avion, et là elle m'a fait penser à une scène culte du cinéma français avec Bourville, avec De Funès, c'est la scène du planeur dans La Grande Vadrouille.
Bien sûr.
Là aussi j'ai juste.
Oui, oui, alors c'est pas directement à La Grande Vadrouille, mais
non,
oui,
parce qu'il y a pas de tireur qui louche.
Mais c'est une vraie comédie, c'est une vraie scène de comédie, effectivement, à un endroit qui pourrait être extrêmement tragique. Donc, mais il faut des scènes de comédie. C'est aussi, il y a aussi le même genre de scène dans Le Porteur d'Histoire où ils partent en avion également et que c'est un peu burlesque. Moi, en tout cas, le but c'était qu'à terme ils aient utilisé à peu près tous les moyens de transport possibles et inimaginables. Donc voilà, ce départ en avion.
Et là, il y a peut-être un petit côté Jules Verne, Tour du Monde en 80 jours aussi.
Bien sûr,
hein, complètement. Vous voyez, toujours des références qui arrivent.
Mais c'est vrai, c'est vrai.
Dans cette scène-là, il y a un personnage qui répète tout le temps: on est dans un film.
Oui,
quand vous écrivez, vous avez des images,
ouais.
Alexis Michalik. Vous imaginez
évidemment
l'adaptation ciné de Loin?
Oui, bah j'imagine l'adaptation en série télé, ça c'est sûr, mais en série en tout cas, mais parce que je raconte comme ça en fait. Moi, je raconte en pensant au film, en pensant aux personnages, en les visualisant. J'ai un récit imagé plus que littéraire, je pense. J'ai un récit imagé et effectivement, quand il se passe des choses où tout d'un coup il y a des flics qui commencent à tirer sur une voiture, je me dis bon, ça c'est pas dans la vie. Qu'est-ce qu'on dirait? On dirait mais c'est pas possible, c'est un film là ce que je suis en train de vivre, quoi. Moi personnellement, ça m'arrive jamais d'être dans un film. Ça m'est arrivé une fois et je me suis dit oh là là, mais et évidemment comme je suis scénariste, au même temps que je vivais les choses, je me suis dit mais en fait je suis dans un film là, ça ferait un film.
Bon, vous venez de nous donner une info là entre deux lignes. Il y a une série qui est en préparation.
Bah pas encore, mais on sait pas, on verra où nous mène. On attend de voir si le bouquin, comment il se vend, etc. Et puis un jour, monsieur
Netflix, ça veut dire gros budget des cœurs en carton pâte ou 3D.
A priori il y a quand même un certain budget derrière une série pareille, mais aujourd'hui tout est possible.
Alors Alexis Michalik, quand on écrit un premier roman, le problème c'est qu'après on attend le deuxième en espérant que ce sera pas le second.
Ouais.
Vous l'avez déjà entamé le deuxième?
Non, pas du tout. En fait, moi le truc c'est que je fais quand même plusieurs choses. Je fais roman maintenant, cinéma, théâtre, et j'ai fait un film l'année dernière, j'ai fait un roman cette année. Je pense qu'il est temps que je retourne au théâtre.
Ben d'accord, mais il y aura une suite à Loin ou pas? Parce que le roman est quand même relativement ouvert.
Il est ouvert, ouais.
Les derniers mots font référence au rêve, d'ailleurs.
C'est vrai. Ben, faut jamais dire jamais, je dirais.
Voilà. Vous n'avez pas envie de remonter sur les traces de votre narrateur cette fois-ci, d'aller un petit peu plus loin en Afrique?
Ah ben c'est possible, hein, c'est possible. Vous avez, c'est une bonne idée, mais il faut que vous l'écriviez. Ce sera.
Ah mais j'ai pas votre talent, hein, ça certainement pas. Mais
non, mais faut jamais dire jamais. Mais je pense que en tout cas moi, ce qui est sûr, c'est que l'envie de raconter une histoire, elle ne vient que d'une envie. C'est-à-dire il y a pas de contrainte. Il y a personne qui va me dire bon allez, je vais pas le faire pour l'argent, pour quoi que ce soit. Non, ça va vraiment être... J'ai toujours eu la chance de fonctionner comme ça. Aucun des trucs que j'ai fait n'a été une commande. Donc, si un jour je me dis, ah bah, je l'ai, l'histoire qui pourra faire la suite de ce roman, pourquoi pas un jour? Et si ça ne vient pas, bah, je ferai autre chose.
Mais là, vos personnages, ils vous laissent tranquille. Vous êtes
passé
à autre chose.
Ils ont fait un sacré périple quand même. Hein.
Oui, c'est clair. Il faut qu'ils se reposent un tout petit peu.
Absolument.
Voilà. Et en attendant, le prochain roman, le prochain spectacle, le prochain film d'Alexis Michalik. 3 exemplaires de ce roman, 6 sont à gagner en répondant à la question du jour sur la page Facebook de l'émission. Réponse uniquement, je le rappelle, par message privé. La question est donc la suivante: à quel poète Alexis Michalik fait-il référence quand il nous invite au voyage? Merci beaucoup Alexis Michalik. Loin est paru, je le rappelle, aux éditions Albin Michel.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Et c'est à travers l'afro heavy metal que nous allons terminer cette émission, car oui, l'afro heavy metal, figurez-vous que ça existe, c'est un genre musical inventé par le groupe togolais Arkane, cinq musiciens fans de rock dur et aussi très imprégnés des rythmes traditionnels. Le groupe existe depuis 2009 et il s'est produit il y a quelques jours, vendredi dernier, sur la scène de l'Institut français du Bénin, devant un public assez clairsemé, mais ceux qui sont venus découvrir Arkane ont été littéralement emballés, à l'instar de notre correspondante Delphine Bousquet, qui a rencontré le groupe peu avant sa prestation.
L'Institut français du Bénin n'avait peut-être jamais tremblé comme ça. Riffs de guitares électriques, voix puissante du chanteur, percussions hypnotiques, plus d'une dizaine de morceaux issus du premier et du prochain album, enchaînés avec une énergie monstre. C'est l'afro-heavy metal d'Arkane. Rock Ahavi, guitariste et fondateur du groupe, définit sa musique.
On écoute à la fois le rythme traditionnel togolais, béninois, et au même moment, le heavy metal. Quoi. C'est comme une fusion, c'est vraiment un truc de tout nouveau compris. Quoi.
Quand on pense heavy metal, on pense musicien blanc, tatoué, une réputation sulfureuse, le satanisme. Sur scène, Arkane adopte un style tribal, marque blanche sur le visage et les bras. Rock Ahavi secoue ses longs dreadlocks. Pour lui et son frère Enrico, clavier et rappeur, le métal prend sa source en Afrique.
Le métal vient du hard rock, qui vient du rock et qui vient du blues. Quoi. Le blues vient d'où ? Ça vient des Noirs qui ont été déportés de l'Afrique vers les États-Unis. Donc c'est normal que le métal ait des racines africaines. Quoi.
Donc voilà, on reprend tout simplement ce qui est à nous. Par exemple, je prends Disturbed, c'est un groupe américain. Et il y a surtout une chanson qui m'a beaucoup frappé, c'est « I'm Alive ». Quand vous écoutez le rythme, c'est purement africain.
Dans les morceaux d'Arkane, les rythmes traditionnels comme le gazo ou le agbaja sont omniprésents. Ça a toujours fait partie de la culture des cinq membres du groupe et ensuite ils ont appris la culture rock. Enrico Ahavi se souvient comment il faisait à Lomé pour écouter ce qu'il aime.
C'était pas vraiment évident d'en écouter à la radio, mais c'était plutôt des CD qu'on achetait. C'était facile de trouver des CD, etc. Et puis les gens étaient beaucoup plus ouverts, même aux autres styles, au rock, au hard rock et tout ça. Donc c'était assez facile comparativement à aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous trouviez comme CD et qu'est-ce que vous écoutiez?
C'était, au début, c'était Scorpion. Il y avait les Scorpions, il y avait MSG. Et mon préféré, c'était Linkin Park.
À Cotonou, la plupart des spectateurs sont venus pour découvrir et ils sont conquis.
C'était génial, c'était super. Je ne les connaissais pas. Ils ont réussi quand même à m'emporter, surtout avec le percussionniste qui était... Franchement, moi, j'ai aimé.
Ça se sent clairement qu'ils ont de la culture musicale. Parce que dans leur musique, on sent du reggae, on sent du blues, on sent de la soul, et on sent beaucoup d'autres types de musique. C'est clair que ce qu'ils vous donnent comme spectacle est riche. Donc, ça fait vraiment plaisir de découvrir Arkane ce soir.
Le morceau « Les peuples de l'ombre » est un tube en puissance. Arkane a déjà des fans dans le monde entier, même s'il ne s'est produit qu'en Afrique. Mais sur le continent, pas facile de tourner. Béatrice Maniga de l'équipe de management.
En fait, il y a des scènes métal africaines. Il y a quand même des festivals, mais la problématique reste la même. On aime votre musique, on a vraiment envie de vous faire venir, mais on n'a pas les moyens d'eux. On va y arriver parce que le style d'Arkane est tellement unique et novateur qu'on arrive comme ça, ils arrivent à briser des frontières. Ça, je le sens.
Prochaine occasion de voir Arkane sur scène, les 28 et 29 novembre, à Accra, au Ghana.
Reportage de Delphine Bousquet pour VMDN. Dans un instant, l'info, on se retrouve demain, évidemment, avec le rappeur Abdelmalik, cette fois, avec la complicité du Théâtre de la Ville. Il met en scène une version très musicale des Justes d'Albert Camus. C'est en ce moment au Théâtre du Châtelet, donc de l'autre côté de la place. Théâtre de la Ville, Théâtre du Châtelet sont deux théâtres qui se font face à face au cœur même de Paris. Et puis Abdelmalik publie également un livre, un roman, en l'occurrence, chez Plon, intitulé « Méchante blessure ». On en parlera aussi avec lui demain. Dans un instant, donc, l'info sur RFI. À demain, vous m'en direz des nouvelles.